le glaive, ce que j'appelais le glaive. Donc, le glaive, quels sont les intérêts de cette manière de, cette autre manière de s'exprimer et de répondre? C'est quelque chose qui permet de mettre le plus de chances possible de son côté, de provoquer l'assentiment de cet interlocuteur, et à un moment, de pouvoir corriger ce qui est faux dans ce qu'a dit notre interlocuteur. Et on va le prendre par surprise. Parce que, en fait, au début d'une discussion, on va dire, ça va être plutôt oui plus glaive. C'est-à-dire qu'on prend au sérieux les arguments entendus, et on dit oui, tu as raison, et petit à petit, on pousse le raisonnement jusqu'au bout et on dit, mais il y a quand même quelque chose qui est bizarre dans ce que tu dis. Par exemple, nous sommes les descendants d'Abraham, et Jésus dit, oui, effectivement, au début, et puis après, il dit, mais en fait, là, vous êtes en train d'essayer de me tuer. Ben, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc, on a Jésus qui est en train de commencer par leur dire, oui, c'est vrai, vous êtes les enfants d'Abraham, et petit à petit, il dit, mais en fait, d'après votre attitude, vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Parce que vous cherchez à me tuer. On exerce une capacité d'entraînement, c'est-à-dire que l'autre va nous attaquer, va nous impressionner, et on va se retrouver à l'enivrer de son propre... il a son assurance, il se dit « Ah, chouette, j'en mets plein la vue », et puis petit à petit, il va déraper, parce que il va arriver à un stade où il va se contredire lui-même, en fait. Et on va lui montrer en quoi il se contredit lui-même. Donc, toujours dans la méthode du glaive, du oui plus glaive, il est nécessaire de s'obliger à avaler notre envie, à ravaler notre avis de répondre non d'emblée suite à l'attaque qui nous a infligée. Parce que quand quelqu'un dit des choses déplaisantes, on a envie de dire non en bloc, en fait. Et la subtilité, c'est d'arriver à demander « Seigneur, montre-moi en quoi, dans ce que me dit mon interlocuteur, il y a des choses justes », et à m'appuyer dessus pour dérouler le raisonnement petit à petit, de dire « bah oui, c'est vrai, tu as raison là-dessus, là-dessus, là-dessus ». Voilà, même si on ne sait pas encore quoi répondre. Et croire que l'Esprit-Saint va nous donner petit à petit les éléments qui clochaient dans ce que dit notre interlocuteur. Ou va nous donner peut-être comment répondre, comment faire une réponse juste, et une réponse surtout qui passe en fait, et qui porte. Et j'ai relevé un cas... C'est quand Jésus discute avec les Sadducéens, quand on essaie de dire oui à ce que les autres disent, dans sa tête, on fait le raisonnement de dire oui, ils ont sûrement raison sur des points, et qu'on ne trouve pas un seul point qui est juste. Eh bien, dans ce cas-là, là on est sur l'histoire que racontent les Sadducéens en disant que quelqu'un qui se marie plusieurs fois et son conjoint décède plusieurs fois, et au ciel, alors, avec qui il sera marié, quoi. Et Jésus leur dit, c'est plutôt un non plus glaive, c'est vous êtes complètement dans l'erreur car vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. Voilà, et là, quand vraiment on ne peut rien trouver, il semble que la bonne méthode, quand on ne peut rien trouver de juste dans ce que nous disent les personnes en face de nous, il semble que la méthode, ça soit vraiment de dire, ben non, là vraiment, je ne peux pas être d'accord, c'est trop. Pour moi, il y a trop d'erreurs dans ce que tu dis. C'est pas possible. Je n'arrive pas à trouver quelque chose de juste dans ce que tu dis. Voilà, le glaive. Cinquième outil rhétorique, le miroir. Donc les intérêts du miroir, toujours de montrer l'incohérence de celui qui attaque et de mettre l'interlocuteur face à ses propres limites. Donc, quelle méthode? Eh ben, on prend différents exemples, dans des paraboles, dans la parole de Dieu, dans des situations de nos interlocuteurs. Voilà, on retrouve, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Donc, on prend des situations plus éloignées et indépendantes, et petit à petit, on se rapproche de situations connues et carrément de situations que vit notre interlocuteur. Voilà, des situations donc qui vont contredire l'argument utilisé par celui qui attaque. Donc par exemple, si l'un d'entre vous possède une brebis, qu'elle tombe dans un trou. Voilà, Jésus dit bien, mais attendez, vous dites qu'il ne faut rien faire, pas de guérison le jour du sabbat, mais si une de vos brebis tombe dans un trou, alors que faites-vous? Voyez. L'idée, c'est d'imiter nos interlocuteurs, en fait, et en les imitant et en faisant comme eux, de montrer en quoi ils sont incohérents, en quoi ils ont quelque chose de dans cette attaque, ça ne tient pas, en fait. Voilà, on va leur renvoyer exactement l'attaque qu'ils viennent de faire. On va faire un, c'est un vrai miroir en fait. On va, et donc le miroir peut porter soit sur les arguments, On va leur resservir le même argument, mais contre eux. Donc, par exemple, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Les pharisiens répondent « Il faut être deux pour pouvoir être crédible ». Donc, ce qui est un argument faux, parce que, en fait, dans la Bible, les trois passages où on parle d'être deux pour être crédible, c'est des passages où on juge quelqu'un. Or, Jésus n'est pas là en train de dire « Je vais juger les autres » ou « On va se juger les uns les autres ». Il est en train de montrer quelque chose de beau. De dire, je vais faire un cadeau au monde, je fais un cadeau au monde de me donner comme lumière du monde. Et les pharisiens l'accusent. Et donc Jésus, petit à petit, rentre dans leur jeu et dit, eh bien, puisque vous voulez juger, sachez que je ne suis pas seul. J'ai bien le Père qui est avec moi. Et comme on est deux, bah, maintenant qu'on est deux, on va vous juger, vu que vous nous avez jugés. Voilà. Et il renvoie dans les dents le fait que, au lieu que les pharisiens aient accueilli ce qu'il a dit, et essayé de confronter ses paroles avec ce qu'ils connaissent en posant des questions bienveillantes, Jésus a dit, bah, vous me jugez, eh bien, quand on juge, c'est Dieu qui nous juge, voilà, et moi, en plus, je réponds positivement en vous disant, effectivement, je ne suis pas tout seul, j'ai mon Père, donc je suis en position, en pleine position pour, en pleine possession de mes moyens pour vous juger, quoi, voilà. Le miroir. On va le voir après, hein. Donc, le miroir peut porter aussi sur d'autres choses, par exemple, les pharisiens se taisent. Et ben Jésus guérit sans parole. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il, c'est lui qui attaque là en premier. Il voit quelqu'un qui est hydropique, c'est-à-dire qui a un œdème, et il dit est-ce qu'on a le droit de guérir le jour du sabbat? Donc c'est lui qui fait le premier pas en fait. Le levain des pharisiens, dans ce cas-là, c'est le silence glacial qui entoure le pauvre gars qui est au milieu et qui a son gros œdème quoi. Et au lieu de répondre bah oui évidemment. Faire le bien le jour du sabbat, c'est quelque chose de beau, et ben ils ne disent rien, et donc Jésus s'appuie là-dessus, et comme miroir, il va guérir sans parole, c'est-à-dire que vous vous taisez, et bien je vais faire une guérison sans vous expliquer quoi que ce soit. Voilà, il le touche, il le guérit. Donc c'est comme si le miroir, en fait, en imitant les autres, sur un point, c'est comme si Dieu nous guidait sur l'attitude qu'on va devoir adopter par la suite. Donc c'est pour ça que d'être attentif à nos interlocuteurs, c'est important. Donc les pharisiens posent une question, régulièrement Jésus va poser une autre question après. Vous voyez, ça c'est un miroir. Ou ça peut être un élément de leur parole ou de leur attitude qu'on utilise pour donner un enseignement. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, Jésus se mit à les enseigner sur le fait de quand on t'invite à un banquet, ne prends pas la première place, etc. etc. Voilà, ça c'est un miroir aussi. Voilà. Donc ça, c'est les cinq... je dirais les cinq outils rhétoriques qu'on peut utiliser d'entrée de jeu pour répondre à une sollicitation négative qui nous est faite, c'est-à-dire une attaque d'un ennemi visible qui nous demande quelque chose, ou invisible, une tentation personnelle qu'on a. Voilà, c'est ces cinq éléments-là.